Shabbos Kodesh, Yidelech, prepare for Shabbos Kodesh. Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous, de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses à nous retrouver pour le commentaire de la paracha de la semaine avec le grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn, monsieur Avraham Harold Veil. Bonjour monsieur grand rabbin.
Bonjour.
Bonne fête de Pessah, je suppose.
Très bonne fête, grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Je pense qu'au niveau de la communauté, l'assistance était nombreuse et on espère que l'ensemble de nos fidèles a également passé de très bonnes fêtes de Pessah, aussi bien ceux qu'on a eu la chance d'accueillir à Strasbourg, on a eu beaucoup d'enfants et de petits-enfants qui sont rentrés pour ces fêtes, que ceux qui sont allés passer les fêtes en dehors de Strasbourg. On espère que tout le monde s'est régalé durant ces fêtes et qu'elles ont été, d'un point de vue également spirituel, riches et bien remplies.
Alors, ce Shabbat, on reprend les habitudes, c'est le Shabbat Acharemot. Notons que ce sera Rosh Chodesh samedi soir, dimanche et lundi, Rosh Chodesh, donc
hier
pour cette semaine. On va commencer peut-être par le début et par le résumé de la paracha de la semaine.
Alors la paracha de cette semaine qui est quasi exclusivement consacrée à la journée de Yom Kippour, puisque c'est dans cette paracha d'Acharemot qu'on va nous raconter en détail la manière dont le Kohen Gadol, notamment le grand prêtre, effectuait son service en ce jour si particulier, si solennel de Yom Kippour, avec les différents sacrifices, avec le fameux rituel du bouc émissaire, qui était un moment éminemment important lors de la journée de Yom Kippour, un petit peu presque le point culminant de cette journée de Yom Kippour. Les règles qui sont relatif à cette journée de Kippour, avec notamment eh bien, cette fameuse obligation de jeûner, le Veinitem et Nafshotechem, qui fait ici référence à l'obligation le jour de Yom Kippour de jeûner, l'interdiction de manger et de boire.
On en parlera
et puis,
tout à l'heure.
Dans une deuxième partie de cette paracha, également un passage qui est lu lors de la journée de Yom Kippour, l'après-midi, lors de l'office de Mincha, et qui va nous livrer, là aussi, dans les moindres détails, la liste de toutes les relations interdite dans la Torah, les relations sexuelles interdites qu'on a l'habitude de lire lors de l'après-midi de Yom Kippour. C'est d'ailleurs une bonne question. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce passage pour la lecture de l'après-midi de Yom Kippour et la toute fin de notre paracha qui nous parlera de l'obligation de respecter la sainteté de la terre d'Israël et de ne pas imiter les pratiques qui étaient même effectuées par les peuplades qui l'habitaient avant nous, au risque de se faire en quelque sorte rejeter par la terre.
Alors le titre Acharemot est un titre un peu lugubre, après la mort. Alors c'est évidemment après la mort des deux fils du grand prêtre. C'est pas un titre un peu bizarre en général, c'est pas aussi lugubre dans le titre de la paracha de la Torah.
Alors on est habitué à voir la paracha prendre pour titre l'un des premiers mots de la paracha. C'est une méthode qui est utilisée assez régulièrement et en principe donc le titre de la paracha est le premier ou en tout cas l'un des premiers mots de la paracha. Là en l'occurrence Acharemot donc est l'un des premiers mots de la paracha. Vaïdaber Hachem El Moshe, notre paracha donc s'ouvre de cette manière. Dieu parla à Moshe, Acharemot Shene Ben Aaron, après la mort des enfants d'Aaron. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que ce sont ces deux mots qui ont été retenus pour ouvrir cette paracha et pour nous placer ici dans le contexte. On est en train d'introduire ici un sujet qui est, on l'a dit, particulièrement important, qui est celui de la journée de Yom Kippour. Et donc il faut bien comprendre un petit peu dans quel état d'esprit Aaron va effectuer ce service et bien sûr ses descendants également seront amenés à exécuter ce service lors d'une journée donc, qui diffère totalement des autres journées, qui a ce caractère tout à fait particulier, on l'a dit, très 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 solennel, et une journée qui est consacrée bien sûr à l'expiation des fautes. Et donc la mort des enfants d'Aaron dans un contexte, on l'avait expliqué il y a quelques semaines, là aussi tout à fait particulier, c'est-à-dire une volonté de se rapprocher de Dieu, mais qui est un petit peu sortie du cadre. Et on avait bien expliqué que la faute qui est reprochée ici aux enfants d'Aaron n'est pas bien sûr la volonté de se rapprocher de Dieu, ça c'est tout à fait louable, le fait de vouloir s'élever, de vouloir progresser, mais c'est la manière avec laquelle cela a été fait, et le fait de vouloir un petit peu sortir du cadre et de penser qu'à partir du moment où on se laisse porter par ses aspirations, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc il est important, le jour de Yom Kippour, de rappeler au Kohen Gadol que les choses se font, et à l'ensemble des enfants d'Israël, que le service de Dieu s'effectue dans un cadre, qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ouais. Et bien sûr, l'image de la mort des enfants d'Aaron doit accompagner ce jour-là aussi les enfants d'Israël par rapport donc à la manière dont la Torah appréhende les choses et le service de Dieu.
Alors, certains commentateurs disent que l'une des causes de la mort de Nadav et Abihu, qui sont des fils du Kohen Gadol, est aussi dû au fait qu'il n'avait pas de progéniture.
Qu'il n'était pas marié.
Ouais. Important.
On en avait parlé là aussi il y a quelques semaines, toutes ces raisons un petit peu contradictoires. On est souvent un petit peu décontenancé lorsqu'on lit le passage qui est consacré à la mort des enfants d'Aaron, puisque la Torah semble nous en donner la raison. On l'avait vu donc dans la paracha Shemini, la Torah nous dit Bekorvatam, là c'est dans la paracha d'aujourd'hui, pardon, Bekorvatam Hashem Vayamutu, mais dans la paracha de Shemini, nous avions lu la raison donc de ce Esh Zara, de ce feu étranger qui a été approché alors qu'il n'en avait pas reçu l'autorisation
en
et qui avait conduit.
Différentes raisons, mais est-ce que celle de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas être marié t'en est une principale?
Alors, on avait expliqué que toutes les raisons qui sont rapportées par le Midrash et qui ont l'air totalement différentes les unes des autres, en réalité, ne forment qu'une même idée, c'est-à-dire la volonté d'affirmer pour les enfants d'Aaron qu'à partir du moment où on se laisse porter par ses sentiments et qu'on est dans un état d'esprit qui nous conduit à nous élever, eh bien, on peut déroger à certaines règles de la Torah. Et donc, c'était un petit peu ce qui se passait ici. Les enfants d'Aaron qui pensaient que en se consacrant entièrement au service de Dieu, on pouvait éventuellement faire abstraction d'autres choses que peut-être que le fait de se marier, de se laisser un petit peu polluer par la vie familiale pouvait calmer un petit peu ces ardeurs ici extrêmement nobles de vouloir se rapprocher de Dieu. Et la Torah vient nous rappeler que quelle que soit, encore une fois, la volonté qui nous anime et quels que soient les sentiments les plus nobles qui nous animent, eh bien, le service de Dieu doit systématiquement s'effectuer dans le cadre qui est prévu par la Torah. Et les mitzvot ont été données pour les hommes, elles n'ont pas été données pour les anges. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Et c'est fort de ces commandements et au travers de la pratique de ces commandements que nous avons la possibilité de nous élever, et sûrement pas en faisant abstraction d'une partie de ces commandements.
Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle cette semaine dans la paracha du service pour le jour de Yom Kippour, du grand pardon. Le Kohen doit d'abord réparer ses fautes avant de réparer les fautes du peuple. Ça veut dire qu'un messager, un chaliar, il doit être irréprochable avant d'être le messager de Dieu pour la communauté. C'est un message pour les chaliars tzibour d'aujourd'hui et les rabbins.
Oui, d'ailleurs, on le sait, ça fait également partie des règles avec lesquelles nos chachamim nous demandent de choisir le chazan qui va d'ailleurs notamment effectuer les prières lors des journées de Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais c'est valable en réalité pour toute l'année. Le chazan doit être un exemple, le chaliar tzibour, même d'une manière générale, celui qui va conduire la tfila pour l'ensemble de la communauté, eh bien, il doit être exemplaire, il doit être aimé par l'ensemble du tzibour, il doit lui-même également ne pas avoir de ressenti vis-à-vis de l'un des membres du Tzibour à partir du moment où il est là pour faire accepter la prière de l'ensemble de la communauté. Donc il est très important qu'il soit exemplaire, qu'il n'ait, on l'a dit, qu'il n'ait pas de ressenti vis-à-vis des différents membres de la communauté. Et il est important lors de la journée de Kippour, effectivement, que le Kohen, pour pouvoir pardonner les fautes des autres, ou en tout cas être l'ambassadeur du peuple juif, eh bien, puisse dans un premier temps déjà lui-même se laver de l'ensemble de ses fautes.
Alors on va passer sur l'ensemble de la partie qui parle du déroulement de la journée. C'est quand même un programme fastidieux. Est-ce qu'un Kohen Gadol doit avoir des forces exponentielles pour faire le service de Kippour?
Alors effectivement, La journée de Kippour était une journée extrêmement fatigante. Le programme était minuté pour le Kohen Gadol, avec beaucoup d'actions à accomplir ce jour-là.
Il s'y
préparait. La Gemara de Yoma va nous raconter, nous relater en détail toutes les précautions que prenait le Kohen Gadol déjà avant la journée de Kippour, toutes les précautions d'ailleurs que l'Assemblée d'Israël prenait même vis-à-vis du Kohen Gadol, en lui choisissant déjà un remplaçant éventuel. Donc tout était fait pour qu'il n'y ait ce jour-là pas de place pour l'erreur. Et ce que l'on sait en tout cas, et c'est ce qui est toujours particulièrement intéressant lorsqu'on se plonge vraiment dans le texte et dans l'étude de chacun de ces rituels, c'est de voir ce qui se cache. Nous n'avons malheureusement pas le temps, mais de voir toute la symbolique qui se cache au travers de chacun de ces rituels. On sait, rien n'était laissé au hasard, et chacune des actions qui étaient effectuées ce jour-là par le Kohen Gadol avait une portée extrêmement forte. On va sans doute dire un mot sur le fameux rituel des boucs, puisque c'est l'un des plus importants et des plus symboliques de cette journée, mais rien n'est laissé au hasard le jour de Kippour, et chaque sacrifice, chaque action effectuée ce jour-là, bien sûr, a sa place et a une symbolique extrêmement forte.
Alors, vous avez parlé du bouc, on va y arriver. Il y a le bouc qui est sacrifié, et un bouc qui va à Azazel, c'est un peu le terme en français, on dirait bouc émissaire, non ?
Alors, c'est difficile à traduire. Le terme de Azazel est composé d'après nos sages, de plusieurs dimensions, de Oz et de El. C'est un terme qui est assez difficile à traduire. Le terme de la traduction de bouc émissaire ne rend pas compte en français du mot Azazel, qui est encore une fois difficile à analyser au niveau étymologique. Mais la particularité donc de ce cérémonial, eh bien, c'est donc de réserver un sort, on voit, totalement différent pour les deux boucs, mais d'exiger, et c'est ça ce qui est intéressant finalement dans ce rituel et qui ne fait qu'accentuer notre interrogation par rapport à ce rituel, c'est donc d'exiger qu'au départ ces deux boucs soient parfaitement identiques. C'est-à-dire que la Torah va leur réserver deux sorts qui sont radicalement opposés. L'un est sacrifié, l'un va avoir sa place dans l'endroit le plus saint du Beth Amikdash, du Mishkan dans un premier temps et du Beth Amikdash dans un deuxième temps, tandis que l'autre, eh bien, va au contraire être jeté du haut de la falaise après avoir été conduit donc dans le désert et se fracasser la nuque pour pouvoir permettre donc au peuple juif d'expier ses fautes. Et donc ce qui est ici particulièrement déroutant, c'est de voir qu'on insiste sur l'obligation de choisir deux boucs qui sont identiques. Si après tout, ces deux boucs avaient deux destins qui étaient si opposés, eh bien pourquoi choisir au départ deux boucs qui ont la même taille, qui ont la même couleur, qui ont la même valeur ? C'est très intéressant. Le Rav Hirsch nous propose une réflexion là aussi toujours lumineuse à ce sujet, en nous expliquant qu'en réalité le message que l'on fait passer ici à l'homme en cette journée de Kippour est très important. La journée de Kippour est une journée par définition, une journée d'introspection, une journée durant laquelle on a la possibilité de se remettre en question, d'essayer d'envisager un futur nouveau. Et à ce titre, eh bien, il est important pour l'homme de se rappeler que quelle que soit sa position sociale, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est arrivé dans ce monde, il a toujours la possibilité qui s'offre à lui de choisir la voie qui est la bonne. Ce n'est en aucun cas lié toutes sortes de critères que l'on pourrait imaginer et décliner à l'infini. Le fait d'avoir deux boucs identiques et le fait d'avoir le Kohen Gadol qui va tirer au sort et qui va attribuer à chacun de ces deux boucs une plaquette et qui va fixer le destin et sceller le destin de ces deux boucs, eh bien, vient nous apprendre que dans la vie d'un homme, c'est lui qui décide de son destin. Souvent, eh bien, on a effectivement au départ des cadres de vie qui sont parfaitement différents, des histoires qui sont totalement différentes, mais qu'au fond, eh bien, on a toujours cette possibilité, ce libre arbitre qui nous permet de choisir la voie dans laquelle on désire s'engager. C'est un petit peu dans cet état d'esprit donc, que le Rav Hirsch interprète ce rituel du bouc émissaire.
Alors, concernant toujours cette journée de Kippour, on nous dit il faut vous mortifier. Ça veut dire quoi, mortifier? Vous en avez parlé tout à l'heure dans le résumé. Ça se résume à ne pas manger, à ne pas boire, à faire un jeûne.
Alors effectivement, le mot qui est utilisé par la Torah est un mot un petit peu fort, ce mot de veinitem, mais nos sages donc l'interprètent comme étant l'interdiction de manger et de boire le jour de Yom Kippour. Il faut donc non pas comprendre cette interdiction comme une violence faite au corps, mais au contraire comme un moyen de s'élever. On le sait, si nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas la journée de Yom Kippour, c'est parce que nous sommes semblables à des anges. Il n'y a pas de dimension négative dans la journée de Yom Kippour. Au contraire, lors de cette journée, tout nous pousse à nous élever et à nous comparer à des anges. Et donc ici, c'est vraiment la dimension positive qu'il faut extraire de ce passage. Et le fait de se faire souffrir et totalement contraire à l'esprit de la Torah. On ne s'élève pas en se faisant souffrir, mais au contraire, on s'élève en adoptant une attitude qui va, en tout cas en cette journée, eh bien, nous éloigner un petit peu de la matérialité et nous mettre en face avec des dimensions exclusivement spirituelles.
Pourquoi parle-t-on du Shabbat pour Kippour ? On dit le Shabbat des Shabbats, c'est... aussi une forme bizarre de parler de Kippour. Kippour, c'est Kippour, c'est une fête ou une commémoration. Pourquoi on lui accorde le statut de Shabbat ?
Alors, on le sait, Shabbat, le Shabbat d'une manière générale, dans notre calendrier, est un jour, là aussi, tout à fait particulier. C'est un jour d'une gdoucha dans la dimension spirituelle est tout à fait extraordinaire, puisque c'est du Shabbat que tous les jours de la semaine vont puiser leur force. Et tout se passe le jour du Shabbat, et l'impulsion qui est donnée au jour de la semaine, eh bien, c'est une impulsion qui va se dégager de la qualité du jour du Shabbat. Le jour de Kippour, qui par définition est un jour hors norme dans notre calendrier, puisque c'est ce jour-là que chaque membre du peuple juif a l'occasion d'envisager et d'appréhender sa vie d'une manière tout à fait nouvelle, eh bien, le titre de Shabbat sied également à cette journée de Kippour, qui est une journée qui va permettre par son impulsion de donner à tous les jours de l'année, au jour suivant, une dimension tout à fait différente, tout à fait autre. Ouais. Et à ce titre-là, eh bien, cette notion de sainteté, de Kdoucha, et de cette force qui va se dégager de Yom Kippour et qui va pouvoir donner son impulsion à tous les jours qui vont suivre cette journée de Kippour, eh bien, mérite en quelque sorte cette appellation de Shabbat, de grand Shabbat.
Alors, monsieur le grand rabbin, il y a dans la paracha quelque chose que j'ai pas très bien compris, le fait de ne pas pouvoir tuer des animaux n'importe où, n'importe comment, et de couvrir le sang. J'ai besoin d'une explication. Est-ce que vous pouvez me la donner ?
Donc la Torah nous demande, après avoir effectué la shrita des volailles, de recouvrir le sang de ces volailles. Nous savons pertinemment que le sang représente une dimension qui est à... en quelque sorte à canaliser, puisque le sang représente toute l'animosité, et donc le sang humain également représente un petit peu le côté animal et bestial qui pourrait exister en l'homme. Tout le travail de l'homme est de canaliser cette pulsion bestiale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah nous demande de ne pas consommer le sang, c'est la raison pour laquelle nous procédons à la cachérisation des animaux avant de consommer leur viande. Eh bien, lorsque nous avons procédé donc à la shrita de la volaille, le fait de recouvrir le sang est un petit peu une manière de montrer cette dynamique, donc de canaliser ce sang, de ne pas laisser le sang apparent, de ne pas laisser le sang dominer, cette pulsion bestiale dominer notre personnalité, mais de faire en sorte au contraire d'avoir les capacités de couvrir ce sang et donc de prendre un petit peu le contrôle de nous-mêmes. Cette obligation ne concerne pas les animaux qui étaient offerts en sacrifice. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ça ne concerne donc les volailles et pas les animaux que l'on a portés sur le Misbéach ? Eh bien, peut-être sans doute parce que le fait d'offrir ces animaux en sacrifice était déjà un moyen de canaliser ou de montrer dans quel dynamisme il fallait être capable de canaliser ses pulsions. Ça, on l'a par définition en offrant le sacrifice et en l'orientant vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Et c'est peut-être la raison pourquoi donc le sang également n'était pas recouvert à ce moment-là.
Monsieur Grand, ben, il nous reste 5 minutes. On va essayer de parler de deux thèmes qui restent dans la paracha, notamment le fait de ne pas imiter les habitudes des autres peuples. C'est un sujet très compliqué, on le lit dans le commentaire et dans la paracha, il y a beaucoup de commentaires sur ça, il y a le Rav Hirsch, il y a d'autres rabbanim qui s'expliquent. Je voudrais que vous essayiez un peu de nous expliquer en termes clairs, c'est quoi cette interdiction de suivre en tout cas certaines habitudes des peuples dans lesquels nous vivons, notamment les Cananéens et les Égyptiens.
Alors il y avait un certain nombre déjà de pratiques, on sait, adoptées par les peuplades, qui étaient des pratiques totalement parfois irrationnelles et qui pouvaient s'apparenter à une certaine forme d'idolâtrie. Ces pratiques sont bien sûr à bannir. Il faut rappeler que le peuple juif, dans le cadre qui lui a été imposé par la Torah, se doit en toutes circonstances donc de rester fidèle à son enseignement, à ses pratiques, et de ne pas chercher à imiter les autres peuplades, et surtout pas dans certaines pratiques pratiques qui pourraient de près ou de loin se rapprocher de ce qu'on appellerait un culte idolâtre, une Avodah Zara. Et c'est un petit peu finalement dans cette idée que la Torah nous invite à nous éloigner de toutes ces pratiques étrangères. Bien sûr, au niveau halakhique, il y a énormément de détails de ce qui rentre dans ces interdictions et ce qui au contraire ne rentre pas dans, dans le cadre de cette interdiction. Donc l'idée est de ne pas imiter ces peuples par rapport à des pratiques qui, de près ou de loin, pourraient nous éloigner de notre objectif premier, à savoir, encore une fois, affermir ce rapport que nous avons avec Dieu et au contraire, peut-être nous dévier un petit peu de ce rapport et nous faire sortir de ce cadre qui nous est imposé par la Torah.
Alors après cette longue parenthèse que je vous conseille de lire, parce qu'elle est très intéressante, c'est très bon de commentaires, mais là le temps nous manque, il y a toute une partie des relations interdites et ce qui me dérange dans cette liste, c'est que c'est très alambiqué. Quand on parle par exemple de la sœur de mon père, qui est ma tante ou mon oncle, on ne le dit pas vraiment. Pourquoi ces formes un peu bizarres dans la formulation ?
Alors la question principale qui se pose sur cette très longue liste d'interdits sexuels, telle qu'elle est présentée par la Torah, c'est surtout la notion de gilouï erva, c'est-à-dire le dévoilement de la nudité. Lorsque la Torah s'exprime pour condamner ces interdictions, elle va parler de dévoilement de la nudité. Et là, on peut se demander, c'est peut-être ça la manière alambiquée de présenter les choses, pourquoi est-ce que la Torah présente systématiquement les choses sous cette forme, l'interdiction de dévoiler la nudité de la personne et qu'elle ne parle pas peut-être de manière plus claire et plus directe. Et là-dessus, je crois qu'il y a une idée fondamentale, c'est le fait de nous dire qu'au travers justement d'une relation qui sort un petit peu du cadre qui est prévu par la Torah, puisque la Torah n'estime absolument pas que la relation, lorsqu'elle est vécue dans un cadre kasher, dans le cadre du couple, est quelque chose qui pourrait être assimilé à quelque chose de sale ou à quelque chose qui serait une sorte de concession de la chair. Absolument pas. La Torah a une vision extrêmement noble de la relation au sein du couple à partir du moment où celle-ci est cadrée, où celle-ci s'exerce dans le cadre qui est prévu par la Torah. À partir du moment où celle-ci est motivée par des pulsions ou par des instincts, et là, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, par cet instinct un petit peu bestial qui peut exister à l'intérieur de chacun d'entre nous, eh bien la relation se transforme en quelque chose qui s'appelle Gilou Yerva, c'est-à-dire la volonté de dévoiler la nudité. On n'est plus dans quelque chose de noble, mais on est dans quelque chose, et c'est la raison pour laquelle la Torah l'exprime de cette manière, c'est que finalement la motivation profonde, elle est uniquement de dévoiler la nudité, donc on n'est plus dans quelque chose qui vient unir en quelque sorte les personnes et même les Neshamot et créer un lien extrêmement profond au niveau de la relation, mais uniquement dans une volonté d'assouvir ses pulsions. Et c'est la raison pour laquelle la Torah utilise cette expression de Gilou Yerva qui vient véritablement donner une idée de la manière dont peuvent être vécues ces relations à partir du moment où elles sortent du cadre dans lequel la Torah les a fixées.
Alors, M. le grand rabbin, suite à ces relations interdites, il y aurait une réaction, ce serait que la terre éjecte ses habitants. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des exemples dans lesquels la terre a rejeté ses habitants?
On l'a vu, le peuple juif a, au cours de son histoire, a dû quitter malheureusement sa terre à plusieurs reprises. Nous connaissons les différents exils qui ont contraint le peuple juif à quitter sa terre, parfois dans des conditions particulièrement violentes. Et donc, bien sûr, l'image ici qui est donnée est une image, l'image qui est employée par le texte, une image extrêmement forte, puisque le texte parle de vomir, si je le traduis littéralement en français, pour nous dire qu'à partir du moment où la terre d'Israël, qui a été donnée dans un objectif bien précis, la terre est donnée au clan Israël pour pouvoir s'y établir et accomplir la Torah, y vivre selon les règles qui lui ont été données par Akadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï, sur le Mont Sinaï. À partir du moment où la terre ne remplirait plus le rôle pour lequel elle a été donnée au peuple juif, c'était conditionné, le don de la terre d'Israël est conditionné par la réalisation des mitzvot. Rappelez-vous que d'ailleurs, le clan Israël va recevoir la Torah avant de pénétrer en Eretz Israël. C'est très intéressant. Il ne reçoit pas sa terre et dans un deuxième temps la Torah. Il reçoit dans un premier temps la Torah et va se mettre en route vers la terre d'Eretz Israël. À partir du moment où il n'est plus capable de faire de cette terre ce pourquoi elle lui a été confiée, c'est-à-dire une terre dans laquelle on va pouvoir justement pratiquer les mitzvot, et vous savez qu'il existe d'ailleurs un certain nombre de mitzvot, de commandements qui sont spécifiques à la terre d'Israël, que nous ne pouvons pas réaliser en dehors d'Eretz Israël, eh bien, ça met le clan Israël, le peuple juif, dans une position forcément de fragilité, puisque la terre n'est plus en mesure de jouer son rôle. En fait, c'est presque un processus mécanique. À partir du moment où la terre, eh bien, ne peut plus jouer son rôle, le rôle pour lequel elle a été donnée au peuple juif, eh bien, d'une manière presque mécanique, eh bien, elle va mettre ses habitants en difficulté, en tout cas, il se retrouve dans une position de fragilité. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir conscience, et je le dis également aux personnes qui choisissent de faire leur alia, eh bien, d'accompagner ce projet qui est souvent un choix de vie et également un choix idéologique, en tout cas de ne pas perdre de vue que l'objectif en s'installant en Eretz Israël est de pouvoir s'élever, de pouvoir progresser et de pouvoir donner une autre dimension à sa vie juive. Et que si l'on perd de vue cet objectif-là, je pense qu'on passe à côté de ce noble projet.
Voilà, fin de cette émission. On vous invite évidemment à chaque fin d'émission à aller voir plus en détail tout ce qui comporte la paracha. Merci monsieur le grand rabbin. Chodesh Tov, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh.